BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la Grande-Bretagne n'a plus de première ministre, elle a plus de reine non plus. Il n'y a toujours pas d'essence pour partir en vacances de la Toussaint, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est quand même pas mal. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce que, tenez-vous bien, on va vous donner toutes les clés sans exception pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et il s'en est passé des trucs cette semaine et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, sur l'économie, la finance et les placements, c'est quand même pas mal. Une émission où vous avez tout ça. Au sommaire aujourd'hui, un mot, profit, une question. L'économie peut-elle s'auto-réguler? Un chiffre, moins 40%, c'est la baisse du gaz en quelques semaines. Et en deuxième partie de l'émission, nos experts vont nous dire où vont les marchés. La question d'argent, comment investir sur la transition énergétique? J'ai fait en fonction de mes invités. Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Enfin, je sais pas si c'est le top 3, le bottom 3, on sait même plus tellement les performances sont mauvaises. Et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle. Et surtout, une émission comme celle-là, importante en ces temps troublés, il nous fallait des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il n'a pas réussi, non. Il n'a pas réussi à convaincre le gouvernement que la prime à la pompe de 30 centimes pour tout le monde et le bouclier tarifaire pour tous n'incitait pas les Français à consommer moins. Mais quelle...
C'est une honte.
Mais c'est une honte. L'homme qui a quand même accéléré ma transition énergétique.
Et je n'en suis pas peu fier.
Ouais. Franchement, c'est vrai. En plus.
Mais c'est... Je viens de loin.
Alain Pitou, pour que je fasse une thématique sur investir, sur les... il a vraiment fallu faire un travail. Il y a des gens qui ne me reconnaissent plus. Alain Pitou, vous êtes senior advisor ESG. Alors maintenant, roulement de tambour, s'il vous plaît. Gros événement aujourd'hui. Nouvelle entrée dans le club très fermé des économistes de C'est Votre Argent. Alors elle a tout pour réussir chez nous. D'abord, bon, elle a été l'élève de notre très cher Jean-Marc Daniel. Et qui est élève de Jean-Marc Daniel et respecté dans cette maison. Elle est PhD, tenez-vous bien, c'est pas fini. Hein. Elle est professeure affiliée en stratégie et innovation à l'ESCP. Attendez, j'ai pas terminé. Hein. Et elle est chercheure avec un E chez Square Management. Bonjour Anna Souakri. C'est quoi ce CV là?
Ravie d'être là.
Ben, nous aussi, ravie de vous avoir.
Ce qui est le plus respectable, c'est d'avoir pu avoir en cours Jean-Marc Daniel.
Il était bon en cours, il est sympa? Mais il s'écoute parler, non? Il n'est pas du tout en contact avec ses élèves. Si? Non, dites la vérité.
C'est un véritable pédagogue qui instruit véritablement.
Alors, il nous a dit quand même que vous étiez une des rares à pomper pendant ses cours.
Oh.
C'est pas vrai? Il a menti? Non. Il a menti. Donc on voit Jean-Marc Daniel est menteur. Il revient à la vie quand la bourse et les valeurs moyennes rebondissent un peu. Mais bon, donc là pour l'instant il est plutôt pâle. Vous l'avez connu très bronzé. Il a perdu de son bronzage, plus les indices baissent. L'homme dont les newsletters sont suivis par des millions de fans, notamment en Chine, Eric Lewin, rédacteur en chef chez Agora Publications.
C'est la cata, hein.
C'est la
cata. Il n'y a plus de vacances à l'Eden Rock, ni à Dubaï, c'est pas la Vasselay Flow ou au pire l'Ibis de Berplage.
Et dommage que vous voyez pas ses chaussures, il a des berloutis. Heureusement
mais
qu'il est
dire,
là.
Il a des baskets.
Il a des baskets non, berloutis. Mais... Heureusement non, qu'il est là quand tout tangue.
Moi, je
quand
préfère... tout tangue. Il est même chez Lidl.
Quand tout tangue et tout tangue, on a besoin de lui, on a besoin d'abord de ses lumières, on a besoin de sa compétence et on a besoin de sa sympathie. Emmanuel Le Chypre, l'homme qui parle français dans la rue, près des stations à essence. Vous allez en faire d'autres, des trucs comme ça dans la rue?
J'espère.
Mais allez dans la rue prêcher l'économie, expliquer aux Français l'économie.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Allez, on commence par le mot de la semaine. Et le mot de la semaine, j'ai frappé fort, c'est profit. Les entreprises américaines commencent à publier leurs résultats trimestriels, les entreprises internationales, en France aussi. Ils sont mitigés. Ça dépend des secteurs, ça dépend des boîtes, évidemment. Les analystes révisent dans tous les pays les profits des entreprises à la baisse. Seul le luxe résiste encore. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le Wall Street Journal, c'est qu'il y a une courante pensée aux États-Unis parmi des économistes qui pensent, et il y en a aux États-Unis. Il y a un courant de pensée qui dit que le pic des profits des entreprises, les plus belles années de la mondialisation, du taux zéro, sont derrière nous. Mmh. Et que dans le nouveau monde, dans ce monde d'après qu'on nous prépare, les entreprises vont faire moins de profits. Emmanuel Le Chypre, vous y croyez, vous, à ce pic de profit? On parle beaucoup de pic d'inflation, mais là, on parle de pic de profit.
Je pense que dans le monde qui vient, le consommateur va prendre sa revanche sur le producteur et le salarié va prendre sa revanche sur l'actionnaire. Absolument.
C'est-à-dire développer.
Bah, c'est-à-dire que vous étiez dans un monde effectivement de d'optimisation extrême des chaînes de valeur. Vous étiez dans un monde dans une économie de bulle avec des taux d'intérêt quasi nuls, négatifs. Et donc vous aviez une déformation, oui, du pas du partage de la valeur ajoutée, mais vous aviez effectivement le grand deal des années 90, c'est quand même comment les actionnaires et les grands dirigeants de boîtes s'entendent pour faire des profits à court terme via stock options, etc., sur le dos des salariés. C'est quand même ça. Et là, je pense qu'on rentre dans un... D'abord, on va vers un capitalisme qui
est devenu gaucho.
En fait,
oui, non, mais c'est pas possible.
On nous l'a changé. Il faut plus aller dans l'arbre.
Mais arrêtez. C'est-à-dire, vous rendez pas compte que vous êtes gavé pendant 30 ans. Vous êtes arrivé sur le marché. Non, mais ça veut dire que vous êtes des enfants gâtés. Vous êtes arrivé sur le marché du travail. Vous avez rien eu à faire pour gagner du pognon. Non, mais faut être honnête. Il y avait des taux qui étaient quasiment nuls. Pour ramasser le fric. Donc là, on est dans un monde qui va être extrêmement différent et qu'on voit se poindre. C'est-à-dire avec des entreprises qui font des performances extrêmement variables selon les secteurs. On est dans un, si vous voulez, on est à la fois dans un monde dans lequel l'horizon...
Qu'est-ce qui a changé en fait?
On est dans un monde dans lequel l'horizon s'allonge.
Ok.
Mais dans lequel l'espace se rétrécit. L'horizon s'allonge pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on est rentré. C'est pas Alain qui dira le contraire. On est quand même rentré dans une forme de capitalisme moins court-termiste, plus vert.
Dans les mots pour les autres. Pas complètement.
Je suis d'accord qu'il y a du vert pâle, il y a du vert normal et il y a du vert foncé. Et beaucoup, on en est encore au stade du vert pâle. C'est clair. Mais on est quand même sur un horizon qui s'allonge pour le capitalisme, clairement. Et vous êtes sur un monde, sur un horizon qui se rétrécit, sur un monde qui se rétrécit parce que c'est le grand retour de la valeur proximité. Le grand retour de la valeur proximité, c'est.
Proximité en termes de production.
C'est-à-dire qu'en gros, pendant 30
circuit
ans.
Circuit court.
Pendant 30 ans, on a cherché l'éloignement entre, notamment, par exemple, le consommateur et le travailleur, et que tout ça va se rapprocher. Aujourd'hui, vous avez effectivement plus besoin de réactivité, et vous avez besoin de rapprocher les lieux de consommation des lieux de production. C'est avec un exemple, vous avez besoin de diversifier vos chaînes d'approvisionnement pour avoir des moins de problématiques de fragilité par rapport à vos fournisseurs,
etc. Donc vous dites, oui, le pic des profits est derrière nous, on est en train de le passer. Anna, vous en pensez quoi? Le pic des profits des entreprises, c'est derrière nous ou pas?
Pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense que effectivement, il va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Ça ne va pas être là tout de suite, effectivement. Mais il y a encore largement des marges pour les profits, puisque ça va dépendre de quoi? Surtout de l'évolution de la productivité. Or, il y a énormément d'innovations et de choses en cours qui sont en train de se mettre en place pour avoir des évolutions significatives de la productivité qui vont pouvoir alimenter les profits de demain.
Mais qui alimenteront davantage aussi les salaires que pendant les 30 dernières années.
Et ce ne serait pas exclusif, finalement.
Ouais, absolument.
Avec le fait d'avoir...
Ouais, n'empêche pas l'autre.
Oui, oui.
Donc vous dites une meilleure répartition entre la rémunération du travail et du capital, mais ça n'aura pas d'impact sur les profits parce qu'on va gagner en productivité, notamment par, j'imagine, vous pensez à la digitalisation.
Voilà, entre autres, et surtout, alors vous allez pouvoir m'opposer, ah oui, mais paradoxe de Solo, on voit les nouvelles technologies de l'information.
Le seul Solo qu'on connaît, c'est Han Solo de Star Wars, donc c'est tombé. Vous n'aurez jamais personne qui va vous dire ça sur ce plateau.
On est totalement
jamais, je pense que vous êtes d'émission. Il n'y a que des gens incultes ici à part Emmanuel.
Alors, des personnes, enfin, les économistes, en tout cas, seront de quoi je parle. C'est un économiste, c'était en 74, qui avait évoqué ce qu'on a appelé ensuite le paradoxe de Solow, donc du nom de cet économiste, comme quoi on voyait l'impact, enfin, les nouvelles technologies de l'information et de la communication partout, sauf dans les statistiques de la production. C'était le fameux résidu issu d'un...
Très fameux.
Voilà. Et donc...
on est coulé là, Marc.
Mais donc, parce que tout est dans la différenciation, c'est pas seulement, oui, on fait de la numérisation, oui, on a des technologies innovantes, c'est comment on les utilise. Tout est là, c'est que jusqu'alors, et pendant très longtemps, ça a été uniquement... de la substitution. On a utilisé les innovations et les technologies du numérique et autres pour substituer ce qui était déjà fait dans les modes de production, les processus également.
J'entends, mais est-ce que vous pensez que l'amélioration de la productivité grâce à la tech, la digitalisation, va compenser les taux d'intérêt qui sont quand même plus à zéro, va compenser le fait qu'on a moins de globalisation et moins de mondialisation, et ça, on est sûr que ça va être le cas, le fait aussi que les entreprises vont devoir supporter, et je connais votre argument, Alain, mais c'est pour la bonne cause, mais elles vont devoir supporter quand même un surcoût de la transition énergétique. Tout ça, c'est dans les moins des entreprises. Vous vous dites le plus, c'est la productivité, ça va balayer tout ça ?
Ah, oui, pour plusieurs raisons, largement. C'est que d'une part, la mondialisation recule, mais pas, finalement pas tant que ça. Hein, quand on regarde entre les discours et ce qui va se passer réellement, moi je pense qu'elle change surtout de structure. Elle se modifie, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'échanges entre blocs régionaux. On voit la multiplication des accords bilatéraux, notamment surtout entre blocs régionaux. On voit là justement avec tous les enjeux autour de justement la transition énergétique.
Okay, donc là vous dites mondialisation, ça c'est bon. En fait, ça recule, mais pas tant que ça.
Voilà, on voit des actions semi-protectionnistes. Okay.
Les taux, ça vous pouvez pas me dire, ils sont mauvais les taux. Taux d'intérêt.
Pour le moment.
Donc, vous dites ça va changer, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Et la transition énergétique, quand même, ça va nous coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent aux entreprises. C'est
ça
nécessaire.
Va rapporter. En investissant de manière justement efficiente et en ayant bien identifié les marges de manœuvre, ça va permettre et sur le court et sur le moyen terme. Et sur le moyen long terme de rapporter.
Bon, ça va être compliqué de la garder, elle est trop intelligente pour nous. Eric Lewin.
Moi, je ne sais pas, tous ces débats, c'est comme en 90, la fin de l'histoire avec Fukuyama, la fin des profits. Moi, je ne sais pas du tout. Moi, je suis un bourrin. Je sais que l'année prochaine, ça va être très compliqué pour les entreprises européennes et les entreprises américaines parce que l'effet des politiques monétaires restrictives vont se faire sentir. Que sur les bénéfices, on sent très bien qu'on est arrivé peut-être à un nouveau cycle de profits, c'est-à-dire moins de profits. Maintenant, prévoir que c'est la fin des profits, que c'est une nouvelle mondialisation. Une nouvelle globalisation.
Bah, c'est intéressant quand même. Hein.
Ouais, c'est intéressant, mais je ne suis pas capable
de prédire. Investir à
non, non,
dire, on est obligé
non,
d'avoir.
Ce qu'on voit, c'est vrai qu'en Europe et aux États-Unis, on sent très bien qu'on est arrivé à un pic des profits qu'on n'aura sans doute pas dans les deux prochaines années.
Maintenant, on a eu quand même un alignement de planètes. J'entends ce que dit Anna, c'est intéressant, mais je trouve qu'on a eu un alignement de planètes. On a vécu dans un monde de rêve pendant.
Ouais, mais l'histoire économique va tellement vite que tout peut changer. Hein. Vous avez une accalmie sur le front Ukraine-Russie. Vous avez moins de tensions inflationnistes aux États-Unis et en Europe, et puis vous vous retrouvez avec des taux longs qui peuvent perdre 150 ou 180 points de base assez rapidement.
D'accord, ça c'est l'effet taux, l'effet conjoncture.
D'accord, on est d'accord, si on a moins d'effet taux sur les profits des entreprises, ils seront peut-être un petit peu meilleurs que prévu. Donc moi je pense que c'est simplement un cycle économique qui va changer, c'est tout.
Alain Pitou, est-ce que la transition énergétique va bouffer une partie des profits des années, très clairement, hein, des années à venir pour les entreprises ? Je ne dis pas que c'est grave, hein. Je dis qu'est-ce qu'il faut s'y attendre, c'est tout.
Ah non, moi je ne crois pas, je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anna tout à l'heure. C'est, en fait,
mais vous avez tout compris ?
Oui, ça va, oui, je crois. Oui. Le côté investissement dans le vert va améliorer les résultats très rapidement. En deux secondes sur ce qui s'est passé récemment, moi je pense que on le voit dans le discours de certains chefs d'entreprise américains, quand il y a une tension sur les résultats, d'une manière ou d'une autre, la réaction est très rapide, très violente. Hein. Vous avez vu ce qu'a dit Snap, ils suppriment 20% de leurs effectifs, avant de supprimer les 80%, on verra. Twitter, ils parlent de supprimer 75% des effectifs. C'est pour dire que les entreprises vont s'ajuster. Après, je pense que ce qu'il va y avoir, c'est ça un peu, moi, que je crains dans les années qui viennent, c'est qu'effectivement, il y a de la pression sur les entreprises. Ça, c'est, de toute façon, il y en aura. C'est comme ça depuis tout le temps. Il y a celles qui vont pas pouvoir s'ajuster parce qu'il n'y a pas grand gain de productivité à faire. Il y a les autres. Et sur le plan boursier, ça va faire une dichotomie massive. C'est-à-dire que, en fait, celles qui vont pas pouvoir faire des gains de productivité très importants pour une manière ou, d'une manière ou d'une autre parce que
les. Donc, elles vont avoir que le négatif, elles n'auront pas le positif.
Que, ouais, je pense
vous
que ça va être très difficile.
Mais non. Non, mais vous pensez à quel type
moi, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises dans l'automobile où ça va être extrêmement difficile de faire des gains de productivité parce qu'ils ont ce qu'on appelle le legacy à traiter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un énorme problème, sans compter la politique en local où ils se retrouvent avec des pressions. À côté de ça, vous avez des entreprises, on l'a vu, celles qui ont du pricing power parce que ça devient difficile sur leurs coûts, mais ils peuvent les réimputer. Ça, pour elles, il n'y a pas de problème. Et pour celles qui peuvent faire des gains technologiques, alors on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la digitalisation, etc. Mais c'est à construire aujourd'hui.